Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Pont. La conférence que vous allez écouter maintenant a été enregistrée le mercredi 10 décembre à la médiathèque Pierre Sénioux de Pont. Il s'agit de la présentation d'une artiste en résidence au lycée de Pont, Madame Karine Klonowski.
Au nom de la municipalité, Daniel Laurent, je suis très heureux donc de participer à la venue de notre artiste qui, dans le cadre de la résidence financée par le conseil régional et en partenariat avec le lycée, commune et donc nos autres partenaires du collège et de...
Collège de Saint-Genis, de Gémozac,
voilà.
La DRAC Poitou-Charentes,
voilà.
Qui nous soutient particulièrement...
Là, c'est Emma Souffleuse, animatrice culturelle du lycée. Qui... Bon, donc ce qu'il y a de formidable dans ce projet, c'est que effectivement, il organise un petit peu, il provoque les synergies et il donne du lien entre nous. Voilà, donc un artiste nous propose sa démarche. Bon, voilà, on y adhère ou pas, mais en tous les cas, cela permet. De nous rencontrer, de confronter nos sensibilités. Et jusqu'à présent, bon, toutes nos expériences ont toujours été très réussies. Donc il n'y a pas de raison que... Surtout que j'ai entendu déjà les premiers échos de nos élèves qui apprécient beaucoup votre travail. Donc voilà, nous allons donc voir un petit peu ce que vous nous proposez ce soir. Voilà, merci.
Merci à vous. Donc bonsoir à tous. D'abord merci d'être là. Je suis ravie de pouvoir vous présenter mon travail et puis en discuter aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre remarque ou question à m'interrompre. Enfin, faut que ce soit un échange dynamique, je pense. Donc je m'appelle Karine Klonowski. Je suis artiste plasticienne et super. Et donc effectivement, je suis actuellement en résidence au lycée de Pont, résidence pendant laquelle j'anime des ateliers avec les lycéens, j'interviens aussi sur le centre social de Pont, et en janvier donc au collège de Saint-Genis et de Gémozac. Donc le principe est que je fasse autant partager mon travail et mes centres d'intérêt que de travailler en fait avec mes interlocuteurs, donc des ateliers pratiques où on travaille sur les sujets qui m'intéressent. Donc en fait j'ai un travail qui se développe essentiellement autour de l'image. Donc je m'intéresse aux façons dont les images peuvent apparaître, donc enfin, avec une photographie, c'est assez évident, mais vous allez voir que j'utilise des dispositifs pour faire apparaître des images qui ne sont pas forcément des dispositifs classiques comme la photographie, la peinture ou le dessin. Je m'intéresse aussi au statut des images, comment en transposant une image dans un autre contexte, en l'occurrence celui de l'art, elle peut devenir quelque chose d'autre. Enfin, tout ce que je vous dis là, c'est une espèce de résumé, mais vous le verrez en application par la suite. Et puis je questionne aussi en fait le rapport à l'image, ce qu'on attend souvent des images, notre tentation de lire quelque chose, un message, de décoder quelque chose dans une image. Et donc tout ça, je le fais souvent, effectivement, à travers la photographie. Une précision importante, je pense, c'est que les photographies peuvent être les miennes ou non. C'est-à-dire que je pratique la réappropriation sur Internet, dans des magazines, ou comme ici, en refotographiant une photo, c'est un poster dans une gare. Et ces photographies, je les montre rarement pour elles-mêmes. Souvent, elles sont juste une composante de l'œuvre, donc elles peuvent être projetées en vidéo. Du coup, c'est plus une photographie, c'est une projection vidéo qui montre une photographie. Ça peut être dans des livres, je vous invite après à les feuilleter. Donc voilà, c'est jamais, enfin quasiment jamais montrer une photo simplement comme une photo accrochée au mur. Et le point commun de toutes ces images avec lesquelles je travaille ou que je produis, c'est la question du paysage. Alors pourquoi le paysage m'intéresse ? C'est un sujet dans l'histoire de l'art qui est assez épineux, qui le paysage en peinture met beaucoup de temps avant d'être considéré comme un genre à part entière, jusqu'au XVIIe siècle, et encore c'est vraiment que le début. Le paysage est le fond de la scène. Il sert simplement de décor à une histoire qui se joue, une scène religieuse, mythologique. Et un des premiers peintres à peindre vraiment le paysage est Claude Lelorrain. Et après lui, il y a toute une tradition de la peinture romantique, qui, donc essentiellement en Allemagne et en Angleterre, qui représente le paysage comme une vue sublime, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse même le beau, qui est une vision quasiment transcendante, en fait, du paysage, un endroit où l'homme n'a plus vraiment sa place, il se retrouve complètement dépassé par les éléments, soit déchaîné, soit une nature immense. Et en fait, la peinture romantique, enfin, bon, je ne vous ai pas ramené d'images, parce que je ne veux pas faire une présentation d'histoire de l'art, mais la peinture romantique, c'est une des premières références de mon travail. Même si c'est quelque chose d'assez daté, il y a un retour un peu à cette idée du paysage merveilleux et sublime aujourd'hui. Et donc moi, c'est une des questions qui me travaille. Et donc le paysage connaît un petit peu sa gloire avec la peinture romantique. Mais aujourd'hui, force est de constater que le paysage, on le voit aussi énormément photographié, diffusé sur Internet. Il y a tellement d'images de paysages prises par des artistes, des touristes, des publicitaires. Enfin, on ne sait plus trop où donner de la tête au milieu de cette multitude d'images. Il y a aussi le côté kitsch, finalement, du paysage. La vue d'un coucher de soleil ultra saturé, avec des dauphins qui sautent devant. C'est aux antipodes, en fait, de la peinture romantique. Et je commence avec cette image, parce que pour moi, elle est assez explicite dans cette idée-là. C'est un poster qui est dans une gare dans les Pyrénées. On voit les Pyrénées à la sortie de la gare. Mais malgré tout, moi, le souvenir que je garde de cet endroit, c'est ce poster avec des couleurs super saturées, une vue complètement improbable avec ce reflet. Enfin, voilà. Enfin, le paysage, en fait, est un peu balancé entre quelque chose de très banal, assez galvaudé par l'esthétique kitsch, et malgré tout, toute son histoire dans l'art, qui a fait que c'est devenu un genre noble de la peinture, et maintenant plus largement de la représentation, qu'elle soit photographique ou filmique. Et donc moi, en fait, la question que je me pose, c'est comment composer avec ces deux aspects du paysage aujourd'hui ? Comment arriver à montrer des images à côté desquelles on pourrait passer en deux secondes, oui, c'est encore un coucher de soleil, bon, et alors ? Donc je ne cherche pas à redonner de la noblesse au paysage, mais juste voir comment on peut encore en parler en art contemporain. Donc je vais vous montrer plus précisément mon travail. Donc Before Sunset, c'est une vidéo. Donc là, je vous montre une vue d'exposition qui avait eu lieu à Paris en 2013. Donc c'est une vidéo projection projetée en grand format, plein pot sur un mur. Et la vidéo, c'est ceci. Donc je vais vendre la mèche, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir attendre trop longtemps. Mais en fait, la seule chose qui bouge dans cette vidéo, c'est le timecode. C'est simplement une photographie qui, pour pousser un peu le vice, qui n'est même pas la mienne, que j'ai récupérée sur Google en tapant « coucher de soleil ». Je l'ai choisie de manière assez arbitraire, très simplement. Enfin, c'est quelque chose que je reconnais aussi, où on dit souvent que l'art contemporain n'est plus une question de beau. J'aime quand même les belles images, et celle-ci, je la trouve assez belle. Donc je l'ai choisie comme ça. Et j'ai juste apposé ce temps qui défile dessus, donc qui dure toute la durée d'ouverture du lieu d'exposition. Donc c'est variable. Et en fait, le principe est qu'en donnant un temps à cette image fixe, finalement, elle est complètement transformée. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que je l'ai appelé « Before Sunset », c'est avant le coucher de soleil. Donc on peut le comprendre à la fois comme c'est une image du soleil avant qu'il se couche et on ne voit que ça, mais aussi en fait, ça peut suggérer que le soleil va vraiment se coucher dans la vidéo et le temps est là pour conforter cette idée-là. Donc l'idée est effectivement d'un peu piéger le spectateur en lui faisant attendre plus que ce que l'image peut lui donner, mais tout en lui proposant malgré tout de suspendre le moment du coucher de soleil, qui est quand même celui où les couleurs dans le ciel sont les plus belles de la journée, ou en tout cas les plus vives. Et voilà, en fait, juste en créant une situation d'attente, on regarde plus l'image autrement. Le principe de cette vidéo, c'est simplement ça, de manière assez brutale, assez frontale, de proposer une suspension, une attente du spectateur qui peut être un peu frustrante, j'arrive à parler. Et en même temps, c'est une proposition de simplement s'adonner à la contemplation d'un coucher de soleil. Après, il y a aussi une illusion qui peut-être là n'est pas très perceptible, mais comme je le projette en très grand, il y a une légère vibration de l'image, donc cette sensation que le soleil va se coucher, cette sensation de mouvement, elle est encore l'illusion est encore plus renforcée. Elle s'arrête au bout de quelques minutes quand on a compris qu'il se passait rien. Mais est-ce que j'arrive à passer à la suite? Non. Non, oui, d'accord.
C'était pas celle-là. Pourquoi ça commence?
C'est au-dessus.
Et celle-ci?
Une celle d'au-dessus. En fait, j'ai l'impression que ça bloque quand il y a des vidéos. Ouais, super.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc tout à l'heure, je disais que je m'intéressais à au procédé d'apparition de l'image. Donc avec cette œuvre-là, ça va être un petit peu plus évident. Ah, bon, je suis passée un peu vite, mais... Donc en fait, encore une fois, c'est quelque chose de très simple. J'utilise pas beaucoup d'artifices pour montrer et fabriquer des images. Cette œuvre-là, donc elle s'appelle vidéoprojecteur, et elle dit ce qu'elle est. C'est un vidéoprojecteur posé au sol qui projette son écran d'accueil, puisqu'il n'est branché à aucune source. Donc un fond bleu avec marqué aucun signal. Et en fait, l'appareil est endommagé. Il perd petit à petit ses pixels. C'est tous ces points blancs qu'on voit apparaître. Donc c'est un processus qui est complètement irréversible et que je ne maîtrise pas du tout. Mais en fait, l'appareil, à lui seul, projette un ciel étoilé en constante évolution. Donc avec le minimum de matériel pour montrer une image, le projecteur branché sur rien, et le minimum aussi de matériel pour montrer un film, le projecteur, il y a une image animée qui se crée d'elle-même, une image de paysage qui se crée d'elle-même et qui, dans quelque chose d'un petit peu dramatique, je vous disais que j'étais très influencée par la peinture romantique, à un moment, il n'y aura plus d'image, en fait. Vous avez vu la première projection que je vous avais montrée. Ça, c'était il y a 3 semaines. C'est actuellement dans l'exposition Frac Poitou-Charentes à Angoulême. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plus de points blancs. Donc, va arriver un moment où le projecteur ne projettera plus d'image, mais que de la lumière. Et alors, en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, puisque la lumière est la condition de visibilité de toute chose, donc de toute image. Donc, à la fois, l'image disparaît, mais on en voit sa composante essentielle. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe, finalement. Et donc, là aussi, il y a une idée de montrer le temps qui passe, finalement. Et puis après, c'est toujours le fruit de hasard, mais le fait que le projecteur ne projette aucun signal, il y a à la fois quelque chose d'un peu humoristique. Vous le verrez après, je suis assez passionnée de science-fiction, donc on peut se dire que aucun signal ne nous parvient depuis l'espace. Et en même temps, ça me fait aussi penser au fait que quand on regarde un ciel étoilé, les étoiles qu'on voit ont probablement déjà disparu, vu que la lumière met énormément de temps à nous parvenir. Donc ce aucun signal, il vient aussi pour moi un peu parler de cette lumière qu'on voit, qui est déjà une lumière du passé. Voilà, donc c'est avec des outils que je décale un petit peu, qui ne fonctionnent plus, qui sont présentés de manière un peu sèche. Finalement, un peu comme pour le coucher de soleil, je propose une posture assez contemplative d'une image qui devient paysagère, en fait, d'elle-même. Alors, c'est à peu près le même principe. Enfin, là, l'appareil n'est pas endommagé, mais j'utilise un appareil qui habituellement sert de... Enfin, c'est quelque chose qui sert à la logistique d'une exposition, donc à un spot. Juste en le posant au sol, entre la jonction du sol et du mur, ça devient une vue de coucher de soleil. En fait, j'aime assez cette idée que dans des objets très simples qui nous sont connus... Tout à l'heure, je parlais du paysage comme quelque chose de banal. Je cherche à y réinjecter une sorte de fascination et de mystère. Je caricature un peu cette idée-là en utilisant des objets qui nous sont très communs, qui sont en eux-mêmes pas des œuvres. Enfin, j'interviens pas vraiment dessus, à part juste le poser. De redonner quelque chose d'un peu mystérieux, énigmatique ou un petit peu captivant... à ces objets, juste en décalant leur utilité, en fait. Et le choix de mes titres vient aussi parler de ça, c'est que c'est un projecteur, je l'appelle projecteur, je dis ce que c'est, et malgré tout, il y a quand même... je ne sais pas si c'est du mystère, mais en tout cas, ça nous renvoie à autre chose que simplement un projecteur. Donc j'aime bien grossir les traits, comme ça, de l'évidence des outils, pour montrer que malgré tout, il y a quelque chose qui nous échappe et on ne peut pas s'empêcher d'y voir un coucher de soleil. Alors donc ça, je vais vous montrer sur Internet. Ouais, je vais voir. Donc c'est... Alors voilà, c'est le premier onglet. Ouais. Voilà, je vais faire défiler, je vais me lever. Donc, je travaille aussi l'animation. Donc en fait, ça c'est une série d'animation qui est toujours en cours, que j'ai commencé en 2012. Qui s'appelle Plus ou moins Midi. Donc ce sont des gifs animés, c'est des courtes séquences d'images passées en boucle les unes à la suite des autres, de mauvaise qualité, c'est fait pour être vu sur internet, ça doit pas peser très très lourd. Je vais laisser celle-là. Encore une fois, j'utilise un principe qui est assez simple, à la limite enfantin, c'est un photomontage. Je mets un premier plan qui est une photographie de paysage, Et à l'arrière-plan, soit j'anime une photographie, soit j'utilise des effets vidéo pour faire un dégradé qui change de couleur. Et en fait, je reprends le principe des time-lapse, qui sont des séquences de photographie prises avec des super appareils photo, en général de phénomènes célestes, la révolution du soleil dans le ciel, une nuit avec... avec les étoiles, enfin avec un ciel étoilé. Et donc ces séquences d'images sont passées en accéléré et donnent des vues absolument incroyables du paysage qui paraissent limite fantastiques tellement la photographie est précise, enfin c'est plus précis que l'œil humain. Donc c'est une belle image bien faite. Je vais un peu à l'opposé de ça, je fais ça de manière assez grossière. On voit que ce sont des choses qui sont complètement trafiquées, les images sont pixelisées. Mais malgré tout, il me semble en tout cas, le principe du GIF étant de passer en boucle, il y a quelque chose d'assez hypnotique là-dedans. Donc finalement, avec un minimum d'effets visuels, il y a quand même quelque chose d'assez soit magique, soit amusant, soit enfin, je dis hypnotique aussi... à contempler ces paysages complètement improbables. Donc voilà, après, le support principal est Internet. Dans les expositions, j'essaye de trouver d'autres façons de les montrer que sur un écran d'ordinateur. Donc c'est parfois sur des tablettes numériques, parfois projetées. Ça dépend. Voilà. On peut revenir à la...
Lequel ?
Du coup, au diaporama. Donc ça doit... Là, on voit plus rien. Ça doit être... Il faut peut-être pas trop descendre. Bon, remettez-vous sur projecteur, sinon je ferai avancer. Comme ça, on sait où on est. Ah, on était sur le bon. On était sur le diaporama, là. Après ? Non, je l'ai vu, en fait. Il est juste là, ouais. Super. Ben voilà, c'est parfait. En fait, voilà. Il n'était pas fermé. Donc, malgré ces couacs technologiques, justement, enfin, ça me permet de rebondir, l'ordinateur, enfin, les nouveaux outils technologiques... Je les utilise de plus en plus parce que c'est un nouveau moyen assez surprenant aussi de faire émerger de nouvelles images. Je vous montrerai ça après avec un autre site internet que j'ai créé. Mais il y a un potentiel de création et de transformation d'images avec les nouveaux outils qui est complètement incroyable et que je trouve même assez vertigineux. Donc j'essaye de m'en emparer. Plutôt que de parler du paysage en peinture, comme le faisaient les peintres romantiques, j'essaie de le faire avec des outils qui sont contemporains. Donc jusqu'à présent, on n'a pas vraiment vu des photographies que je prenais. Maintenant, on va voir ça. Donc c'est encore une installation vidéo, faite à partir de photographies. Donc le principe est qu'une... je vous décrirai les images après, mais... C'est une toute petite projection qui fait 8 cm par 8 cm au mur, qui sort d'un mystérieux bloc blanc. Et la projection est faite sur un petit carré de paillettes. Donc il y a quelque chose d'assez intriguant, ça brille, c'est très lumineux, ça attire l'œil quand on rentre dans la salle. Et pourquoi ? Voilà. Quand je fais des photographies, ça donne des choses comme ça. Donc, comme tout à l'heure, je vous montrais avec le vidéoprojecteur, je suis assez sensible aussi aux accidents qui font que des images se transforment. Donc, en fait, ces photos-là, c'est des Polaroids que j'ai fait lors d'un voyage à Los Angeles. Et je photographiais vraiment avec une posture de touriste, sans trop savoir ce que j'allais faire de ces images, des vues typiques de cet endroit. Donc les palmiers, les enseignes en néon, des belles voitures, des choses comme ça. Et en fait, il y a eu un problème de chimie dans la pellicule et toutes les images sont apparues surexposées, roses, avec cette espèce de bande bleue en haut. Donc plus vraiment des photos souvenirs comme celles que j'espérais ramener. Et puis, finalement, quand je suis revenue en France, j'ai un peu réfléchi sur mon appréhension du paysage là-bas et je me suis rendu compte que j'avais du mal à avoir des souvenirs très nets. J'avais presque l'impression que j'y étais pas allée, tellement ça ressemblait en fait aux fictions, aux films qu'on voit sur cette ville. J'avais pas réussi à avoir une expérience très personnelle là-bas. Et j'avais pas réussi à bien m'approprier ce lieu. Et donc ça m'a semblé assez logique que je revienne avec des images qui me donnaient que des bribes de souvenirs assez flous, qui devenaient presque des espèces de réminiscences, en fait, de ce voyage. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les présenter en diaporama, avec des fondus, pour que les choses émergent puis disparaissent tout doucement, qu'il y ait des espèces de persistance rétinienne, des choses comme ça. Et puis après, reconnaissant que ces images ne disent plus grand-chose de ce voyage, je cherche, un peu comme avec le coucher de soleil pour retenir l'attention du spectateur, des stratagèmes pour que malgré tout, ça reste attirant, intriguant ou esthétique. Donc je leur donne un côté un petit peu précieux, projeté en tout petit au mur, sur un carré de paillettes, ça brille un peu, c'est un petit peu glamour. Donc c'est une façon d'essayer de ramener le spectateur à regarder des choses sur lesquelles il ne voit plus grand-chose, qui peuvent être un peu décevantes, et c'est essayer de jouer avec cette ambivalence, en fait. Donc voilà. Ah oui, là, c'est quand il y a les vidéos, ça...
C'est des blocs.
Je crois qu'il n'y a plus de vidéos après, donc on sera tranquille.
Ah, et celle-là. Ah oui, ça, c'est ce qu'on voit. Hop.
Donc c'est celle juste après, celle qui est cliquée. Ouais.
Celle-ci.
Voilà. Ok. Donc, il va encore falloir retourner sur Internet. Donc, c'est le troisième.
Numéro 3.
Voilà. Donc là, je peux enfin rebondir sur la question des outils technologiques. En fait, c'est un blog sur lequel je poste régulièrement des images. Enfin, des séquences d'images. En fait, tout part d'une image, d'une photographie de paysage que je ne montre pas. Sinon, ce serait trop facile. Alors, est-ce qu'on est arrivé? D'accord, on voit rien. Ah, si, ça y est. Voilà. Donc, en fait, cette image, c'est celle-ci, qui est en fait une image qui a bugué au moment de l'enregistrement. Et la petite miniature qui permet d'en donner un aperçu sur l'ordi ressemble à ça. Donc, un peu intriguée par ce phénomène, j'ai décidé de le pousser, en fait, et de faire une capture d'écran de cette miniature que j'ai elle-même enregistrée, qui donne une deuxième image, qu'elle-même je recapture et réenregistre. Enfin, bref, c'est un processus un peu sans fin. Enfin, on verra. Et en fait, à chaque fois, je rajoute la nouvelle image à la suite des précédentes. Donc c'est constamment la même image, finalement, qui est montrée. C'est juste... Je ne sais pas si on peut parler de dégradation, puisque finalement, elle devient quelque chose d'autre, et ça devient quelque chose de plus pictural, enfin presque une peinture abstraite, quoi. Et bon, après, moi, j'en fais des animations à rendre un peu épileptique, mais finalement, c'est ça, c'est le... Encore une fois, je me laisse guider par l'outil, c'est l'ordinateur qui a ce défaut d'affichage qui fait émerger perpétuellement de nouvelles images, dans un espèce de flux incessant que j'aime bien comparer même au flux de la nature, en fait, un espèce d'éternel recommencement des choses, de la journée, de la, je sais pas, de la vie, des plantes qui poussent, des choses comme ça. Il y a quelque chose de un mouvement, en fait, qui est perpétuel et infini, et on verra si j'en arrive au bout, si un jour j'aurai plus d'images différentes, mais en tout cas, pour l'instant, je peux le pousser encore plus loin. Voilà. Donc ça, c'est visible en ligne par tout le monde. Et pour le coup, cette œuvre-là n'est vraiment visible que sur Internet. Je la montre que dans ces conditions, donc quand elle est montrée dans une exposition, c'est une exposition en ligne. Voilà. On va passer à la suite. Donc voilà, là on la voit bien. Donc c'est là l'image numéro 2, mais je ne montrerai pas la première. Donc là on revient à des choses un petit peu plus tangibles. Physiquement. Encore une fois, assez marqué par mon voyage aux États-Unis, parce que bon, là-bas, la question du paysage, elle est, tout du moins en Californie, elle m'a semblé très, très présente. C'est un paysage qui est, en tout cas à Los Angeles, complètement façonné par l'homme. On passe d'un quartier à un autre, c'est plus du tout le même environnement. Enfin, il y a quelque chose de finalement très, très artificiel et très, très caricaturé. Les enseignes, pour une boutique de donuts, c'est un énorme donut. Donc vraiment, tout est complètement artificiel, je me répète. Et donc, très marqué par ce voyage-là, je suis un peu revenue sur les photographies que j'avais réussi à prendre, et je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes prises en fait à travers la vitre d'une voiture, parce que là-bas, peut-être une chose qui fait que le paysage est difficile à appréhender, c'est qu'on ne le traverse qu'en voiture, puisque tout est tellement grand que marcher deux pâtés de maison nous prendrait une journée. Donc, comme tout était pris à travers le pare-brise, toutes mes photos comportaient une bande solaire bleue, qui était celle du pare-brise. Et en fait, j'ai reproduit cette bande solaire à l'identique, sur un adhésif, que j'ai collé sur une vitre de l'atelier où je travaillais à Angoulême. Donc ça donnait sur une vue qui était pour moi complètement quotidienne. C'était la Charente, ce que je voyais de la fenêtre tous les jours depuis 5 ans. Et juste en collant cet adhésif, du coup ça transformait complètement la vue qui était derrière la fenêtre. Ça renforçait le côté que la fenêtre cadrait quelque chose. Donc c'était même plus un paysage, ça devenait une image en fait, ce qui était derrière la vitre. Le flou, le changement de couleur, ça ramène presque ça à une peinture aussi. Les contours sont plus très nets. Et puis j'ai appelé cette installation Road Movie, en référence au pare-brise, en référence aussi au voyage, en fait. D'un coup, avec cette image qui est fixe, qui se retrouve légèrement décalée, on voyage dans un autre champ. Moi, ça me rappelle Los Angeles. Il y a des gens qui voient simplement une peinture ou un paysage mis en évidence. En tout cas, c'est pour mettre en avant aussi cette idée de déplacement des choses, même s'il est fait de manière très très légère. C'est une intervention qui, d'un coup, fait glisser une image ou un paysage dans un autre domaine. Qui en change un peu le statut, en fait. Voilà. En parlant de déplacement, je peux parler de retournement des choses. Ça, c'est une installation que j'ai faite au printemps dernier. En fait, j'ai utilisé du papier affiche que j'ai collé au plafond. Et ce papier a la spécificité d'avoir un dos bleu qui permet de coller une affiche par-dessus une autre sans que celle en dessous apparaisse. Donc finalement, c'est quelque chose qui sert à cacher une image. Et en fait, moi, je le colle au plafond, retourné. Pareil, sans, un peu comme mes collages ou mes photomontages, sans grand soin. Je ne cherche pas à créer d'illusions. Il y a des plis qui se créent. J'ai plus rien. C'est un papier trop fin. Bon, ben. Et donc, je retourne le papier. Je le colle le dos visible au plafond. J'ajoute à ça un gros spot de chantier sans aucune subtilité pour que le spectateur, lorsqu'il entre dans la salle, se rende compte qu'il y a quelque chose à voir au plafond. En même temps, quand on voit avec cet angle de vue-là, c'est aussi une sorte de soleil dans un ciel. Ça reprend le principe des plafonds peints dans les palais ou les églises. Mais avec un minimum de moyens possibles, sans chercher à créer d'illusions, juste faire émerger par projection, c'est pas vraiment par métaphore, mais presque, une image de paysage. Et ce qu'il y avait d'assez intéressant aussi, c'est la façon dont je m'intéresse beaucoup à la lumière et à la couleur. C'est des composantes du paysage assez essentielles, de la peinture, de la vision. Et en fait, là, il y avait un phénomène lumineux aussi, assez magique qui se passait. La salle étant assez petite, le fait de braquer un projecteur très puissant sur un aplat de bleu faisait que toute la lumière de la salle devenait bleue. C'est la dernière... Oui. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en ce moment, que je vous montre. Je vous disais que la lumière et la couleur m'intéressaient beaucoup. Ah non, ça, c'est le diaporama. Ah non, si.
Non,
c'est si, c'est l'image du diaporama. Non.
Non, non.
Je peux pas descendre, en fait.
Non.
Comment ça se fait?
Ah, je sais pas, ça, c'est des trucs comme ça. Je peux réactualiser.
Ouais. C'est bizarre, mais merci. Depuis que je suis arrivée à Pont, je suis assez frappée par la beauté du ciel, en fait. Ici, je trouve que la lumière est assez particulière. Sinon, vous avez l'adresse et vous pouvez voir ça chez vous. En fait, tous les jours, je prends une ou plusieurs photos du ciel à différents moments de la journée. Ensuite, je les poste avec la date et l'heure affichées. Et bon, alors c'est un peu dommage que je puisse pas vous montrer, mais peut-être on peut revenir au... Si ça marche pas, on peut revenir au diaporama, parce qu'il y a un exemple. Merci.
Oui, je vous en prie.
Hop. Voilà, en fait, les images... donc c'est un défilement d'images à la verticale. Donc là, on a une vue, en fait, entre deux images. Donc le temps reste toujours fixe, mais change. Ça reprend un peu le principe du time code sur le coucher de soleil. Et donc on peut regarder comme ça un espèce de camailleux de bleu, allant du bleu nuit à un bleu presque gris. C'est une espèce de... Je ne sais pas trop encore comment bien en parler, mais c'est une espèce de journal de bord, de notes comme ça que je prends sur la couleur du ciel. C'est presque un peu scientifique et maniaque de noter l'heure à chaque fois que je le prends, mais voilà, en fait, c'est une sorte de dégradé de bleu, très simplement. Donc là, on en arrive à une autre partie de mon travail qui est exactement sur les mêmes sujets, mais qui se développe sur le format imprimé, que j'ai ramené ici. Quand je disais que j'essayais de réinjecter du mystère et de l'émerveillement dans le paysage, à un moment, je me suis dit que l'événement le plus merveilleux qui peut se produire dans un paysage, encore plus fulgurant qu'un arc-en-ciel, un coucher de soleil ou une aurore boréale, c'est l'apparition d'une soucoupe volante. Donc j'ai bien étudié les codes de cette imagerie-là, et je les ai repris un peu de la même façon que mes animations de paysage, de manière assez grossière, j'ai fait des collages sur lesquels on voit les déchirures, la superposition, et je me suis amusée comme ça à recréer des apparitions de soucoupes volantes. Et quand je le présente dans une exposition, donc c'est un journal qui se déplie en plusieurs posters, que je vous laisserai manipuler si vous le souhaitez. Et donc je présente les quatre images qui sont dessus, avec une pile en dessous que le spectateur, dans laquelle le spectateur peut se servir en fait et ramener cette image chez lui. Parce que quand je disais qu'il y avait une certaine banalisation du paysage, parfois on peut même parler d'épuisement du sujet, ou en tout cas du risque d'épuisement du sujet, qui est déjà très exploité dans l'art et puis dans plein d'autres domaines. Et finalement, pour mettre un peu l'accent sur ce possible épuisement de l'image, je propose comme ça une pile de journaux qui, elle aussi, peut-être avant la fin de l'exposition, va s'épuiser. Tout le monde sera peut-être parti avec un exemplaire. Et en même temps, en épuisant ce stock et du coup l'installation, je remets ces images en circulation, ce qui est quand même le but premier d'une image d'apparition de soucoupe volante, c'est de témoigner de l'apparition d'une soucoupe volante, donc que ce soit vu par le plus de personnes possible. Et en proposant au spectateur de l'emporter chez lui ou de le prendre pour l'offrir à quelqu'un, je remets ces images dans un autre circuit que celui de l'exposition, où ça peut paraître parfois un peu figé, c'est là, regardez-moi, je suis une œuvre. Bah non, là, ça va peut-être être sur un mur, dans une bibliothèque, oubliée dans un bus. En tout cas, l'image va avoir une vie propre, en fait, qui m'échappe un peu, et un peu comme le phénomène que ça relate. Et puis voilà. Donc là aussi, j'insiste là-dessus sur le sens artifice, c'est que je cherche vraiment pas à créer d'illusions, je cherche juste à suggérer une possible histoire, une possible apparition, un possible émerveillement, sans essayer de faire croire quelque chose au spectateur. C'est lui laisser le choix de se projeter dans ce récit ou non. Donc mes dispositifs d'exposition, de présentation de mes œuvres sont toujours assez frontaux et radicaux, mais finalement, je laisse beaucoup de place à l'interprétation, à l'imagination. Donc, comme je parlais de l'ambivalence de la notion de paysage, j'aime bien jouer comme ça, toujours sur deux notions un peu tendues. Ça, ce sont des sérigraphies. C'est peut-être la chose la plus manuelle que je fais. Donc, le principe, c'est que... Donc, ce sont des dégradés qui sont sérigraphiés. Je les présente par trois. C'est trois étapes différentes de la création du dégradé. Donc en fait, ça parle du processus de création d'une image. C'est que au début, les encres ne se mélangent pas bien quand je les tire avec la racle qui sert à faire passer l'encre. Et puis petit à petit, les encres se mélangent jusqu'à donner un dégradé qui n'est pas parfait, mais qui tend à la perfection. Donc il y a toujours aussi un peu d'aléatoire là-dedans. Toutes les marbrures qui se créent, qui font penser à une image de paysage, sont complètement dus au hasard. Donc je les présente par trois, à la fois pour montrer l'évolution de la création de l'image, aussi en fait avec ce texte qui vient dessus, donc time-lapse, qui désigne un laps de temps, on ne sait pas trop lequel, mais un peu comme pour le coucher de soleil avec le temps qui défile, c'est nommer le temps qu'on passe à regarder, donc là de façon très évasive. Avec cette répétition du temps qui passe et ces trois étapes, finalement avec trois images abstraites et le même texte, donc quelque chose d'assez minimal, il y a un récit qui se crée, celui de l'apparition de l'image, celui peut-être d'un changement du paysage, je sais pas, moi j'y vois une sorte de nuage dans un ciel bleu très sombre, et puis petit à petit ce ciel qui se transforme, le jour qui se lève, je sais pas. On peut un peu y voir ce qu'on veut. Voilà, c'est avec des éléments, encore une fois, très de la couleur du texte, créer un récit, créer un potentiel paysage. Ce que je ne vous ai pas dit, j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême, qui sont aussi une école de bande dessinée. Et je crois que ça m'a vraiment marqué quand je parle souvent de récits. C'est que trois images, c'est créer un strip, c'est une petite histoire, une petite bande dessinée. Et donc ça joue beaucoup sur l'ellipse. Et en fait, c'est ça, je montre trois étapes de la création de l'image. Entre les images, bah, y a un temps qui s'est passé, peut-être 10 images qui se sont faites. Et voilà, c'est tout. Donc ça, c'est une intervention que j'ai faite sur la peinture d'une autre artiste qui avait peint au blanc d'Espagne coloré sur une vitre. Donc c'est quelque chose qui est assez fragile, qui ne tient pas très bien. Et donc moi, je suis venue gratter le The End. Au début, je disais que je m'intéressais au statut des images. Là, c'est un petit peu hybride. À la fois, ça servait de support de communication. C'était dans une exposition. C'était la fin de l'exposition, donc... c'était presque une affiche, en fait. C'était l'intervention sur l'œuvre d'une autre artiste. Il y a aussi, un peu comme dans Road Movie, une référence au cinéma, juste en apposant ce texte, l'image devient une sorte de capture d'écran d'un film. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais c'est juste par le texte décaler l'image. Et en fait, tout à l'heure, je parlais d'apparition de l'image, de projection de la part du spectateur. Et je trouve que le langage, c'est aussi une des conditions d'apparition de l'image qui est très forte. Puisque quand on lit un roman, on s'imagine tous des images qu'on a du mal à faire passer, à transmettre. Elles nous sont très intimes. Mais le pouvoir des mots à révéler des images est aussi assez énorme et... Donc c'est un champ qui m'intéresse aussi. Ça, c'est un photomontage. C'est en référence à une peinture d'un peintre américain qui s'appelle Ed Rocher, qui a peint le panneau Hollywood, vu de dos, ce qui est impossible à voir en vrai, mais... Donc il a appelé ça « The Back of Hollywood ». Et en fait, cette photo, je l'ai faite dans le cadre d'une exposition où le principe était de copier d'autres artistes. Enfin, moi, c'est un artiste qui est très important pour moi. Il a notamment peint beaucoup de mots sur des paysages. Donc c'est un peu deux sujets qui m'intéressent. Et donc c'est une photo que j'ai prise depuis le train, de l'arrière d'un entrepôt à Heineken. Et puis tout de suite, j'ai fait un lien avec cette peinture. Et... j'ai fait une référence un petit peu comique en parlant de bière, mais voilà, c'est une citation. Et en même temps, donc, c'est un photomontage qui est encore une fois pas très bien fait. Donc c'est un premier plan que j'ai légèrement déformé sur un dégradé fait à l'ordinateur. Et je l'ai tiré aux mêmes dimensions que la peinture, donc quelque chose d'assez monumental. Elle fait 2 mètres de long. Sur 50 cm de haut, donc c'est un format assez panoramique. Et en fait, sous une référence un petit peu potache, malgré tout, c'est une image très étirée, très cinématographique, un grand dégradé de bleu, et finalement, on en revient à quelque chose d'assez esthétique. Donc, voilà. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui est aussi un grand tirage panoramique d'une entrée d'immeuble qui s'appelle l'Horizon. Je trouvais qu'il y a quelque chose d'assez drôle, d'assez poétique là-dedans. C'est un immeuble qui est face à la mer. Et voilà, finalement, le mot est exactement aligné comme un horizon. Donc, je décale un peu la chose en proposant un format faussement mis en perspective. Donc je joue comme ça sur une image qui est plane, dans laquelle j'essaie de recréer une illusion de perspective. Et bon, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, mais encore une fois, c'est parler aussi du pouvoir de suggestion du mot. Là, c'est un peu plus évident. Donc ça, c'est une photographie que j'ai prise aussi. Dans l'idée de projection, là, c'est encore une installation avec du papier affiche. J'ai imprimé 10 images de cartes postales au format affiche. De cartes postales tout à fait banales, hein, de paysages, un sapin, une montagne. Et systématiquement, je les présente l'une retournée sur l'autre, en laissant juste quelques indices. Donc, à la fois, vient la frustration de ne pas pouvoir regarder l'image. En même temps, chaque spectateur peut créer sa propre image par projection. Et c'est obstruer une image, la cacher, en même temps avec ce rectangle bleu qui, pour moi, est une sorte de rectangle ciel bleu. Le papier affiche, le dos est bleu et légèrement moucheté de blanc. Donc c'est quelque chose, enfin c'est une matière qui est assez, assez belle aussi. Donc voilà, c'est jouer apparition, disparition, obstruction d'une image et en même temps ouverture. Et ça, ce sont les éditions que j'ai ramenées. Donc il y a là j'ai ramené trois livres. Après il y a une série d'autocollants qui sont des photos que je prends. Vous pouvez vous servir dans les autocollants. J'ai ramené aussi quelques catalogues d'expositions auxquelles j'ai participé. Et donc les livres, il y en a un qui contient essentiellement du texte qui traite justement de mon voyage à Los Angeles. Donc où je parlais de cet espace comme un espace très, très marqué par la fiction. Je l'ai abordé comme ça. C'est-à-dire que je raconte ce voyage à travers des morceaux de romans que j'ai recomposés, une sorte de collage. Et voilà, je parle d'une ville fictionnelle à travers la fiction. Celui-ci, The Event, qui, pareil, hein, je vais vendre la mèche, mais qui parle de soucoupe volante aussi. Donc systématiquement, je mets en vis-à-vis une photographie d'apparition de soucoupe volante avec un texte qui témoigne de l'apparition. Le texte ne va pas nécessairement avec l'image à la base, hein. J'ai récupéré ça sur Internet et je les ai associés un peu arbitrairement. Et en fait, dans le texte comme dans l'image, j'ai enlevé tout ce qui traitait de la soucoupe volante. Donc ne reste que des photographies de paysages essentiellement cadrés sur le ciel, dans lequel il se passe rien ou presque rien, et des textes qui décrivent des gens complètement subjugués par la vue d'une montagne ou d'un nuage. Donc il y a quelque chose d'assez cocasse là-dedans. Et finalement, par la répétition de ce processus, on se rend compte que quelque chose manque dans le texte et dans l'image, même si grammaticalement les phrases sont correctes et que les images restent des images de paysage. On sent qu'il y a quelque chose qui doit se passer et qui n'arrive pas. Et puis bon, qu'on soit familier ou non de science-fiction, on peut difficilement s'empêcher de penser à ça. C'est des codes qui sont quand même assez connus. Et voilà, donc le livre s'appelle The Event. L'événement, en fait, c'est pareil, il est en projection, il est en creux. Pour moi, il est vraiment entre le texte et l'image, au niveau de la reliure. Et encore une fois, c'est un stratagème très simple pour faire apparaître quelque chose. C'est un texte, une image, et j'espère que la magie opère. Et voilà, et après, le dernier livre, donc celui-là, je l'ai plus amené parce qu'en fait, les livres que je présente, c'est moi qui les fabrique. Je fais les choix graphiques, je fais les choix de papier, et je les imprime, je les relis à la main. À la fois par choix, parce que je m'y suis pas mise, mais je n'ai pas cherché à être édité à grande échelle, et je ne le suis pas encore. Et puis aussi par plaisir de fabriquer des objets, parce que tout ce que je vous montre est assez immatériel, des images numériques, des photos projetées, mais malgré tout, j'ai un plaisir à fabriquer des objets, et je le trouve dans la fabrication de livres, en fait. Donc voilà, c'est un mémoire c'est mon mémoire de fin d'études qui traite du coucher de soleil, mais je l'ai fabriqué aussi en accord avec ce que j'ai dit. Voilà. Et si ça vous intéresse, il est lisible en ligne sur mon site internet. Et il reprend un peu les questions que je me pose dans mon travail plastique. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, remarques, Si vous voulez venir feuilleter les livres, c'est possible aussi.
Voilà. Il y a une question que je me posais sur, sur le thème du temps que vous traitez de diverses façons. J'étais partagé entre l'impression qui ressort, qui est une impression relativement froide, enfin distanciée des choses, et à la fois le côté complètement angoissant, cette notion très angoissante que vous avez sur le temps, à travers justement différents systèmes que vous utilisez, la répétition, la fiction, etc. Voilà, donc c'est...
Quelque chose où je vous montre finalement le...
Ce partage, je ne sais pas si le temps pour vous c'est quelque chose de totalement angoissant, ou au contraire, une sorte de chose sans conséquence, enfin vous voyez, le temps qui bouge sans bouger, donc il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de... Et pourtant ça se répète, et pourtant tout ça est... Il y a un côté flippant aussi,
ouais.
Voilà, c'est les deux, c'est à la fois très angoissant et un côté très distancié.
Mais en fait, je reprends un peu le principe, le discours des peintres romantiques qui montraient. Je disais qu'ils montraient la nature sublime, enfin, ils montraient aussi tout ce qui écrasait un peu l'homme, donc le temps qui passe, des notions qui finalement nous dépassent, on ne peut rien faire contre. Le temps continuera de couler sans nous. Et en même temps, il le montrait toujours avec une espèce de mise à distance qui permettait de le contempler comme un phénomène fascinant. Et donc, eux, ils le faisaient de façon... ils utilisent des codes visuels pour ça. C'est-à-dire que souvent, il y avait un personnage au premier plan en train de regarder le paysage, en train de regarder le soleil se coucher. La journée se terminait, il ne pouvait rien y faire. Et du coup, c'était montrer les éléments qui nous dépassent en même temps qu'ils nous fascinent. Et en fait, moi j'ai un peu cette posture-là aussi, quand je pense au temps qui passe, quand je disais tout à l'heure de ces étoiles qu'on voit qui n'existent déjà plus, je suis à la fois complètement subjuguée et en même temps, il y a quelque chose d'angoissant. Pour pouvoir être fasciné par quelque chose et en admirer la beauté, il faut se mettre un petit peu à distance. Du coup, c'est pour ça que... Enfin, la mise à distance, elle est là pour ça, en fait. Pour pouvoir apprécier le spectacle, finalement. Sans être complètement angoissé.
La mise en abîme du vidéoprojecteur qui projette un vidéoprojecteur, etc. C'est un peu ça.
Oui. Mais effectivement, c'est de ne pas trop avoir les pieds dedans pour pas être tétanisé, en fait.
Personne n'a plus de questions. Je voulais vous remercier d'être venus nombreux ces dernières animations que nous avons faites parmi nous. On peut remercier Karine Klonowski de nous avoir présenté son travail devant un grand public. En la remerciant.
Merci à vous.
Été présent et je vous dis pour d'autres animations à l'année prochaine. Merci à vous tous.